Épisode 71 du podcast Aliment Passion. Aujourd'hui, je vous parle d'une visite à la microbrasserie Le Ciboire sur Saint-Laurent à Montréal. Je vous parle tout d'abord de la bouffe qu'on a mangée et ensuite de leur bière. Et ensuite, je vous parle de fromage du Québec. Et c'est parti! Salut le foodie, ici Roger, ton crazy chef. Bienvenue au podcast Aliment Passion. Va tout de suite liker nos médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. On va voir toutes les photos de ce que je vais te parler aujourd'hui, ainsi que toutes les dernières nouvelles quant au podcast. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'une visite tout d'abord à la microbrasserie Le Ciboire. Ils ont quelques succursales, il y en a deux ou trois à Montréal, ainsi qu'une qui semble être l'originale à Sherbrooke. Eh bien, en fait, je vais vous parler de celle sur la rue Saint-Laurent. Donc, c'est la succursale que j'ai visitée. Fait que tout d'abord, dans le premier bloc, on va faire un tour de la bouffe. On n'a pas vraiment pris, j'étais là pour un événement, on n'a pas vraiment mangé un repas, trois services traditionnels. On a juste commandé quelques petits trucs au cours de la soirée qu'on a partagé avec mon amoureuse. Donc, tout d'abord, la première truc qu'on a pris, c'est donc tout d'abord la première entrée qu'on a commandée, c'est les cornichons frits. Eh oui, normalement, les places que je visite ont tout ça au menu. Fait que j'ai toute tendance à les essayer pour les comparer. Une très belle entrée, c'est une belle portion aussi, je pense, qui est un petit peu plus généreuse que les portions de cornichons frits que j'ai testé dans d'autres restaurants dernièrement. Donc, c'est un cornichon frit avec panure à la bière, servi avec mayonnaise piquante pour un coût de 8$. Je pense qu'à chaque place que je vous ai parlé, c'était le prix. Donc, vous allez voir sur la photo, c'est quand même une belle portion. Un pickle frit très intéressant, bien crispy. C'était vraiment une pâte à la bière maison. On sentait le petit détail. Par contre, très huileux. Je ne sais pas si il n'était pas frit à assez haute température ou s'il aurait peut-être dû être épongé en sortant de la friteuse. On avait une petite coulisse d'huile grasse dans le fond de notre panier qui n'était pas très cool. Ça faisait pas très, très délicat. Sinon, je pense que la portion, comme je vous ai dit, était le double de ce que j'avais. Je pense que les autres, en général, c'était deux pickles coupés en quatre pour huit morceaux. Là, je pense que c'était quatre pickles coupés en deux. Donc, c'était vraiment le double de la portion. Donc, au niveau de la grosseur de la portion, c'était quand même très généreux. Une mayonnaise spicy, ça, je n'ai pas trop compris. Je pense qu'on va quand même bien le voir sur la photo. J'ai l'impression qu'ils ont juste, au lieu de se faire eux autres même maison, où ce que tu mélanges, peu importe, une sauce piquante ou ce que tu veux dans ta mayonnaise, je sais pas si c'est comme ça que c'était supposé d'être ou là, il était dans le jus, mais c'était bon, les petits copes en métal, souvent qui mettent le maillot dedans, ça va, c'est le format normal. J'ai l'impression que c'était juste de la mayonnaise, puis qu'ils ont versé de la sauce piquante sur le top. That's it, on trempait notre piment, fait qu'il y avait la moitié du piment qui était dans la mayonnaise, l'autre moitié dans la sauce piquante. Je suis pas sûr de si c'était vraiment prévu ou c'était quoi l'idée en arrière de ça. C'était un peu bizarre, finalement, on a été obligé de mélanger nous autres même avec le pickle. C'était pas très chic, parce que sinon, ça donnait pas une bouchée qui avait de l'allure. Mais sinon, à part de ça, un très beau pickle. Le pickle est encore très croquant, un beau snap dedans. La pâte à bière était croustillante, encore ce qui est dans ce type d'entrée-là. Je fais toujours référence aux onion rings qu'on prend une première bouchée. L'oignon vient complet, puis il dresse un ring de pâte dans la main. C'était pas du tout ça. La pâte était ultra croustillante, fait qu'à chaque bouchée, la pâte a cassé, donc on n'avait pas un débalancement de panneux et de cornichons. Donc, très belle saveur, une belle pâte à bière, bien savoureuse, comme je vous dis, où on goûtait la saveur de levure de la bière dans la pâte, super bien faite. Pas des petits bits de points, comme je vous ai dit, pour l'espèce de mayonnaise épicée, pas mélangée. Que je comprends pas trop, comme je vous dis, où est-ce qu'il s'en allait avec ça. Et pour le côté très gras, c'était pas vraiment c'était pas super cool d'avoir ces espèces de pickles-là qui baignaient dans leur jus. Ça l'enlevait un petit peu de crispiness, là. Les derniers morceaux, là, vous imaginez, ça baignait un peu dans l'huile, dans le petit panier. Fait qu'en pas en fin de bouchée, là, mais quand on était en train de finir cette entrée-là, les bouchées commençaient à être grosses un peu, là, fait que c'était un peu moins agréable. C'était pas complètement détrempé, c'est pas ça. Mais on a perdu un petit peu là, de la délicatesse de la pâte à frire dans les dernières bouchées. Mais sinon, en général, très bien exécuté, des très belles saveurs. Beaucoup, beaucoup apprécié cette entrée-là. Donc, pour le cornichon frit du Ciboire, on y va avec un 4,5 sur 5. Comme je vous ai dit, une portion très généreuse pour 8 $. Une entrée qui a bien de l'allure. Pour la deuxième entrée, on a pris une salade de canard. Donc, c'est une salade au canard confit 24 heures avec des physalis sucrés. Physalis, là, c'est des cerises de terre. Des échalotes, des tomates raisins, une vinaigrette au jus de canard et des croutons de pain au levain grillé. Un peu déçu de cette assiette-là, il y avait beaucoup de choses qui marchaient pas. Au niveau de la salade, très simple, une salade là, mélange printanier, c'était très beau, très frais, c'était bon. Un très beau canard, un confit bien assaisonné, pas trop salé. La physalis sucrée apportait pas grand-chose de plus, étant donné qu'il y avait déjà des petites tomates raisins. Je comprenais pas vraiment, là, je m'attendais à ce que peut-être selon les variétés de tomates ou de physalis qui étaient pour nous mettre dedans, il était pour en avoir un peu plus sucré, un peu plus acidulé. Là, je vous dirais que ça s'annulait un peu. Fait qu'il y avait un élément qui était là trop parce que ça servait absolument à rien. La portion était quand même très belle, une belle portion de salade, une belle portion de canard, ça c'était bien. Très simplement assaisonné, fait que j'apprécie beaucoup ça, que ce soit pas over-assaisonné et qu'on perdait toutes les délicatesses là, dans la salade. Beaucoup trop, pas d'oignons, mais de l'échalote ciselée, il y en avait vraiment beaucoup. Je comprends que dans une salade, ça apporte de la saveur, un crunch, ça l'apporte vraiment beaucoup, mais là, il y en avait vraiment beaucoup trop pour la portion qu'on avait. Chaque bouchée était quasiment, là, je dirais quasiment 25% là, d'échalote. Même si c'était très fin, c'est beaucoup trop. Bien que ce soit beaucoup plus délicat que de l'oignon, là, il reste que ça vient quand même là, rentrer dans la délicatesse là, de la laitue, des tomates, le fruit, là, la physalis dans ce cas-ci, et le canard qui avait été délicatement confit. Donc, c'était très violent là, au niveau du contraste. Le pain au levain grillé qui était, je sais pas si c'était supposé être un accompagnement, un crouton. Si c'était un crouton, c'était beaucoup trop gros. Là, ça n'avait aucun bon sens. Là. Même moi qui ai une grande bouche et qui veut faire son glouton, là, j'étais à peu près pas capable là, de le manger. D'un autre côté, c'était comme trop petit pour que ce soit juste comme un petit baguette de pain à côté. C'était pas clair qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça. Là. Il était comme trop gros pour être un crouton puis trop petit pour être un accompagnement de side. Il y en avait quand même 5-6 à l'entour du bol. Donc, c'était pas bien défini. C'était peut-être pas adapté pour ce qu'il voulait faire. Il y avait des choses qui marchaient très bien puis il y avait d'autres choses que l'équilibre était pas là. Donc, en général, pas mauvais, mais un gros, gros manque d'équilibre là, dans les textures, les saveurs. Puis comme je vous dis, là, la physalis avec la tomate faisait qu'il y en avait un des deux qui servait absolument à rien. Donc, quand même quelque chose de bien, mais il manque un peu de délicatesse dans l'exécution. On y va avec un 3,25 sur 5 pour la salade de confit de canard à 17 $. Ensuite, on a terminé avec le tartare de bœuf. Le tartare de bœuf qui est un tartare d'onglet de bœuf Black Angus 18,55 avec une garniture classique, un jaune d'œuf et servi avec des croutons de pain. Première des choses, il n'y avait pas assez de croutons, c'est des croutons extrêmement minces, il devait en avoir 4 ou 5 pour la portion tartare qu'il nous avait servi. Je sais que moi je suis type crouton, puis il n'y en a jamais assez pour moi, mais là c'était quand même pas assez là, pour la quantité qu'on avait là, de tartare. Le tartare était malheureusement extrêmement mal assaisonné. On ne goûtait que la moutarde. Le sel était extrêmement fort, donc il y avait clairement trop de sel, trop de carbe. Les garnitures salées étaient beaucoup trop présentes. Même avec le jaune d'œuf qui est sur le dessus, devrait apporter là, un côté un peu crémeux, puis essayer d'adoucir tout ça. Le jaune d'œuf ne réussissait pas là, à adoucir toutes ces saveurs beaucoup trop fortes. Là. Donc, pour que le sel sorte à ce point-là, il fallait vraiment que dans le montage de l'assiette, il y a eu trop de sel, il y a eu trop de capre. Le sel était beaucoup, beaucoup trop fort. Comme je vous ai dit, c'est un tartare qui est fait avec de l'onglet de bœuf. C'est quand même assez rare que le tartare est fait avec cette partie-là du bœuf. Donc, je m'attendais à avoir une texture, un goût, quelque chose d'assez distinctif. Le sel a pris le contrôle d'absolument tout. J'ai eu à peine connaissance que c'était une coupe de bœuf différente là, que ce qu'on peut manger habituellement. Donc, vraiment, là, un peu gâché par le sel. C'était pas extrêmement salé, ça le rendait pas immangeable. Par contre, ça rendait que c'était la seule saveur qu'on goûtait, tout simplement. Donc, on avait le tartare, les petits croutons, absolument rien d'autre là, qui ressortait. Donc, un peu décevant, c'est quand même un plat qu'on voit un peu partout. C'est assez simple d'avoir quelque chose là, de up to par. Là, on y voit quand même avec une note de passage, parce que c'est pas parce qu'il était mauvais. Mais vraiment, là, il faut travailler ça, là, s'assurer que les assiettes qui sortent aient des saveurs là, beaucoup plus équilibrées, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était de la moutarde puis du sel bord en bord seulement. Donc pour le tartare de bœuf, qui était quand même là, une assiette à 21,50$, on y va aussi là, avec un 3,25 sur 5. Et c'est ce qui termine le premier bloc pour leur nourriture. On s'en va au deuxième bloc pour les bières. Pour le deuxième bloc, là, je vais vous parler des bières de la microbrasserie Ciboire là, sur Saint-Laurent à Montréal. Tout d'abord, là, la première bière que j'ai pris, en fait, c'est la West Coast Pale Ale numéro 1, qui était un choix du brasseur. C'est une Pale Ale américaine de 5,6% d'alcool et 80 IBU. Qui était en vente là, à 8,50$ pour une pinte. Ce qu'eux ont à dire sur leur bière, c'est on fait ici un retour dans le temps d'une douzaine d'années, quand les IPA amers étaient les plus recherchés. Les nostalgiques seront servis. Les houblons résineux et agrumés de la côte ouest, des céréales un peu sucrées, une texture mince d'une grande buvabilité et une amertume franche pour vous désaltérer. L'Ouest est de retour au Ciboire. Donc, une West Coast IPA, là, qui est un style, comme je vous ai dit, là, que j'apprécie particulièrement dernièrement, avec vraiment là, une belle amertume, un houblon avec un léger côté d'agrumes, des saveurs très claires là, au niveau là, de ce qu'on veut faire là, au niveau de la West Coast. On sentait les céréales, une très belle exécution, un bel assemblage. J'avais bu quelques bières, là. Je pensais que je ne les connaissais pas du tout, puis avec ma mémoire virtuelle, là, qui est l'application Untappd là, pour les bières, m'a rappelé que j'avais déjà bu là, deux ou trois là, de leur bière là, en canette que j'avais acheté à un moment donné. Donc là, je les buvais évidemment là, en fût directement sur place. Donc un choix vraiment intéressant, comme je vous dis, c'était vraiment là, dans le type de bière que j'ai le goût de boire ces temps-ci. Donc peut-être que évidemment ça y fait. Quand ça tombe dans nos cordes, dans ce qui nous tente de boire, ça se peut qu'on l'apprécie un peu plus. Dans les dernières années, je n'étais pas du tout là-dedans. Puis là, t'as-tu cette année, je suis obligé d'admettre là, que je suis dans un mode très, très West Coast là, depuis à peu près une couple de mois, là, que je suis vraiment accroché à ce type-là pour le moment. Donc vraiment, là, un bel équilibre avec, comme je vous dis, le houblon avec un léger goût d'agrumes, belle amertume, des saveurs très claires. C'était vraiment là. Ça goûtait une West Coast. Très belle exécution. On y va avec un 3,75 sur 5 pour la West Coast Pale Ale numéro 1, choix du brasseur du pub Ciboire Microbrasserie. Pour deuxième bière, je vais vous parler de la bière que mon amoureuse, elle, a pris. Mon amoureuse qui est un petit peu moins aventureuse là, au niveau de côté bière, donc elle cherche toujours quelque chose d'un petit peu plus doux. Elle a trouvé la Bleu Ale, une bière de fruits au bleuet. Une bière à 5% d'alcool qui était en vente à 8$ la pinte. Ce que eux ont à dire sur la Blue Ale, c'est les plus nostalgiques se rappelleront sans aucun doute cette saisonnière ayant marqué les étés au Ciboire, la fameuse Blue Ale. De retour sur nos lignes, cette ale aux fruits brassée avec des bleuets sauvages du lac Saint-Jean est la parfaite bière de terrasse. Laissez-vous séduire par ces notes de bleuet frais, de petits fruits nordiques et sa touche céréalière, le tout dans une finale légèrement acide et désaltérante. Les notes de dégustation sont des bleuets frais, des petits fruits nordiques sèches et désaltérantes, céréales avec une finale légèrement acide. Une bière que j'ai trouvée extrêmement simple, je me suis rendu compte aussi que c'est assez rare qu'on voit là, une bière un peu lager aromatisée aux fruits. On voit beaucoup, beaucoup ça avec les blanches. On voit beaucoup moins ça avec d'autres types de bières. Là, c'était le cas, ce qui fait que ça donnait un goût très léger. Quasiment limite trop léger. C'est sûr que la blanche va apporter ce côté blé, ce côté un peu plus céréal-là. Là, je vous dirais que le côté céréal était extrêmement mince, pour pas dire inexistant. C'était très léger, très doux, à peine sucré. Fait qu'à ce niveau-là, c'était très intéressant. Vous le savez, là, quand c'est trop sucré, vraiment pas dans mon bag. Fait qu'à ce niveau-là, c'était vraiment pas un problème. On avait des belles saveurs très franches de fruits frais, de qualité. Ça faisait une bière justement plus calme, plus de base. Qui était très différente là, d'une qui s'arrêtait une blanche au bleuet. Ça fait que c'était très mince, très léger là, au niveau des saveurs. Mon amoureuse, qui est un petit peu moins fan de bière que moi, a beaucoup apprécié là, d'avoir trouvé une bière beaucoup plus délicate. Moi, je trouvais que ça manquait peut-être un peu d'étoffe. J'aurais aimé qu'il y ait justement un petit peu plus de punch de saveur, que les céréales sortent. Peut-être aussi parce que je suis habitué, comme je vous ai dit, à avoir une blanche qui va être aromatisée aux fruits. Donc, on a ces notes de bière de blé-là qui sortent habituellement. Là, c'était pas le cas. Là, c'était vraiment là, comme une petite lager au bleuet. Donc, très simple, très doux. C'était quand même une bière d'été très intéressante, mais extrêmement simple. Donc, pour la Blue Ale, j'y vais avec un 3,25 sur 5. La troisième bière, c'est la Polout Mavé Pivot, qui est aussi un choix du brasseur. Une lager ambrée tchèque à 4,6% d'alcool et 0 IBU. C'est vraiment là une genre de lager ambrée. Ce qu'eux vont dire sur leur bière, la lager ambrée tchèque, la traduction de cette bière peut se lire comme suit. Bière Mavé, semi foncé, donc Polout Pivot, ou semi dark beer. On avait envie de travailler sur une lager de soif tchèque, comme on sait le faire, mais cette fois-ci, une version un peu plus foncée, question de laisser toute la place au malt. Plusieurs couches de complexité de malt biscuité, pain croûté avec une légère touche de caramel. Au niveau des notes à la dégustation, on devrait trouver du malt biscuité, un pain croûté, un léger caramel roux, des houblons nobles, du floraux et herbacé. Une texture riche et moelleuse avec une finale légèrement amère. Personnellement, j'ai trouvé là, que c'était une espèce d'hybride là, entre une Pilsner tchèque et une bière rousse là, de malt très rôti. La finale de pain biscuit aux épices là, était là. Quelque chose de très herbacé, très floral. Un léger caramel. C'était pas lourd, c'était pas sucré, c'était pas sirupeux. Une très belle exécution. Ça m'a vraiment surpris. J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Juste par réflexe, comme vous le savez, je suis quand même pas mal fan de Pilsner Tchèque. Fait que quand j'ai vu Tchèque, j'ai commandé tout de suite. Quand il m'est arrivé avec ce boc de bière rousse ambrée, là, très foncé, j'ai fait comme « Oh, attends un peu, je pense, ils se sont-tu trompés? » Puis quand j'ai pris là, la peine de lire un peu plus sur le menu, là, j'ai vu que c'était là, cette lager ambrée tchèque-là. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un style que je peux pas dire que je connaissais. J'avais peut-être là, déjà bu ça, mais pas assez pour que j'en prenne une note mentale et que ça me marque. Donc, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça se trouvait à être là, un genre d'hybride dans deux styles que j'aime vraiment beaucoup. Soit les bières rousses, là, ces bières ambrées-là, avec un malt très rôti, et la Pilsner Tchèque, qui a un côté très céréal, très franc. Donc, cette espèce de mariage des deux donnait ce type de bière-là très intéressant que je connaissais pas, comme je vous dis, que j'ai jamais reconnu avant. Beaucoup aimé ça. Donc, les saveurs en force, ça était vraiment ces saveurs là, de côté céréal là, comme la Pilsner Tchèque et le côté là, de malt rôti caramélisé quand même assez fort. Comme je vous dis, la petite finale là, qu'ils ont annoncé, que je n'étais pas sûr au début là, de pain, biscuit aux épices. Là, c'était vraiment là en finale aussi. Donc vraiment herbacé, belle exécution. Une petite finale très légèrement caramélisée, là, pas trop lourd. Une belle bière qui avait une certaine légèreté. Beaucoup, beaucoup aimé cette bière-là. C'est une très belle surprise. Un choix, comme je vous ai dit, un style que je ne connaissais pas vraiment. Donc, pour la Polout Mavé Pivot, choix du brasseur, j'y vais avec un 4 sur 5. Vraiment, là, une des très bonnes bières que j'ai bu dans la soirée au Ciboire Saint-Laurent à Montréal. La dernière bière que j'ai goûtée, là, c'est probablement ce que j'ai découvert qui s'appelait leur bière d'hypothèque, là, donc leur bière qui les a fait connaître. La Cherbière, qui est une lager américaine, une bière de 5,2% d'alcool et 30 IBU. Ce qu'eux ont à dire là, sur leur bière, la Cherbière, c'est brassée dans le but de faire rayonner Sherbrooke sur la scène brassicole québécoise. La Cherbière est née d'une vision partagée avec nos amis du King Hall et du Vent du Nord. Faite à 100% d'ingrédients québécois, elle est la démonstration que notre ville vibre de plus en plus au rythme des produits locaux. Elle est la lager par excellence pour vivre l'expérience de Sherbrooke et ses bières, la Cherbière. La Cherbière a été récipiendaire d'une médaille d'or et de la mention « Meilleure bière de soif au public » au prix du public bière 2019. Bière de soif, je vais le raccorder. C'était la dernière bière que j'ai bu, puis j'aurais peut-être dû être la première. C'est une bière très simple, légère, sèche. Une petite légère saveur là, de pain et de levure. Une bière très simple, donc vraiment une vraie bière de soif. C'était pas une bière avec des points très particuliers, mais je pouvais pas dire là, qu'il y avait des fautes d'exécution. Mais c'était vraiment là, une bière de soif, une bière à boire. C'était vraiment pas là, la bière à boire en fin de soirée, là, après quatre bières, après quatre autres bières, trois autres bières, en fait, là, comme quatrième bière après avoir mangé. C'était beaucoup trop léger, beaucoup trop délicat. Ça aurait dû être probablement la première bière que je prenais. Je vais être obligé de la noter sur ce que j'ai goûté, mais sinon, c'est une bière là, d'une extrême simplicité qui n'avait pas vraiment là, qui avait rien pour se sortir du lot. Mais ça reste que c'était un peu ce que ça voulait être en étant une bière de soif. Donc là, pour la Cherbière, une bière, comme je vous dis, là, extrêmement simple avec une petite saveur là, de levure et de pain. Mais sinon, là, absolument rien à dénoter une bière là, qui est vraiment là pour que ça coule bien et que ça rentre, mais sans plus. Donc, on y va quand même avec la note de passage pour la Cherbière, 3 sur 5. Comme je vous dis, fort probablement que de l'avoir goûté en premier, j'aurais pu là, dénoter peut-être un petit peu plus de délicatesse puis l'apprécier un peu plus. Mais là, c'était pas une bière à prendre en fin de soirée. Donc, ça va être là, à regoûter là, dans une autre situation. Et c'est ce qui complète le deuxième bloc pour aujourd'hui. Pour le deuxième bloc, là, je vais vous parler de fromage du Québec. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une dégustation de fromage pour vous en jaser. Les fromages que j'ai pris ont été pris à la station des bières et fromageries à Sainte-Julie. Oui, c'est souvent là que je prends des bières ou des conseils bières. Et ils ont vraiment là, plein de petites choses, là, vraiment des charcuteries, du fromage. Ils sont en train de développer là, beaucoup, beaucoup avec les fermes voisinantes là, de Sainte-Julie là, pour avoir des produits frais, là, puis ils vont faire des sandwichs spéciaux à tous les jours, des boulettes de burger assaisonnées avec les produits du terroir locaux. Donc, vraiment, là, gardez un œil sur les pages des médias sociaux et si vous avez une chance, arrêtez de faire un tour. Ils font des très, très belles choses. Ils sont en train de développer des trucs très, très intéressants à la station des bières et fromageries à Sainte-Julie. Donc, le premier fromage dont je vais vous parler, c'est le Marquis de Témiscouata. Un fromage là, qui se vendait là, à 72$ le kilo, donc pour un petit morceau là, de 72 grammes, ça m'a coûté 4,46$. Le Marquis de Témiscouata là, est un fromage à pâte molle, avec une texture fondante, une intensité moyenne, une saveur très lactique au niveau du champignon. Ce qu'ils ont à dire là, à propos de leur fromage, c'est que ce fromage à pâte molle, à croûte fleurie, est fait de lait pasteurisé provenant uniquement de vaches de race Jersey du terroir Témiscouata. Sa croûte est couverte d'un duvet blanc dévoilant les petites stries de couleur brun orangé. Il offre un arôme doux de champignons et de beurre. Sa pâte jaune pâle est souple et onctueuse, devenant crémante, crémeuse et coulante de la croûte vers le centre. À point, elle devient très riche et crémeuse due au taux plus élevé de gras dans ce type de lait. Jeune, la pâte possède une douce saveur de crème qui devient un goût de beurre en s'affinant et la croûte apporte un goût de champignon des bois. C'est quand même un fromage là, à 30% de matière grasse et 50% d'humidité là, qui a gagné le quatrième prix là, au Royal Agricultural Winter Fair pour les fromages à pâte molle à croûte fleurie. Donc, c'était vraiment un fromage que j'ai trouvé très doux, très gros, un genre de semi-crémeux, des saveurs d'herbe, là, ou un peu qui venaient se pointer à travers ça. C'était vraiment un fromage qui est extrêmement intéressant. Je pense qu'il gagne à être un petit peu plus vieilli, mais c'était vraiment un fromage là, avec une grosse richesse, très beurrée, comme eux-mêmes le mentionnent, là, la croûte amène un léger goût là, de champignon des bois là, qui vient très bien se marier avec le crémeux du fromage. C'était extrêmement intéressant. C'est un fromage que je ne connaissais pas du tout. Vraiment, là, un très beau fromage. Les accords recommandés, là, c'est avec des vins aromatiques et ronds. Donc, des vins là, qui sont très, très intenses là, au niveau des arômes d'épices, de pain grillé ou de fruits exotiques. Avec donc des vins là, qui vont être assez gras et bien équilibrés. Quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, c'est un fromage que vous pouvez manger avec autant du vin blanc, du vin rouge, un cidre, une bière blonde. Donc, ça va être un peu un fromage qui va être super intéressant, facile à déguster, passe-partout. Il va très bien se marier avec beaucoup, beaucoup là, de choses, autant au niveau des gustatifs que les alcools. Donc, un très beau fromage. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite découverte-là, le Marquis de Témiscouata, que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, fait avec des vaches, du lait de vache Jersey. On commence à en avoir de plus en plus. D'ailleurs, le prochain que je vais vous parler aussi, c'est le cas. Donc, vraiment, là, des nouvelles façons de faire. On n'utilise plus seulement là, du lait de vache de Holstein. On est en train de travailler d'autres choses, de découvrir d'autres choses. C'est le côté très intéressant là, des fromages du Québec à ce moment-ci. Donc, là, pour le Marquis de Témiscouata, j'y donne une note de 4 sur 5. Un beau fromage super intéressant. Le deuxième fromage, là, c'est une pâte semi-ferme là, de la Moutonnière. C'est le Saint-Hélène, un fromage là, que j'ai un tout petit morceau, là, donc environ là, une quarantaine de grammes pour 2,75 $. C'est un fromage à intensité moyenne. Ce qu'eux ont à dire sur leur fromage, c'est qu'il s'agit d'un fromage à pâte semi-ferme à croûte naturelle, affinée de 2 à 4 mois. Il est fait de lait de vache Jersey du troupeau de Marie-Claude et Stéphane Cloutier et du lait de brebis de la Moutonnière, deux fermes situées dans les montagnes de Sainte-Hélène de Chester. Son goût allie onctuosité du lait de Jersey et de lait de brebis avec des saveurs légèrement acidulées. Servir en plateau de fromage avec des noix et des canneberges. C'est un fromage très intéressant, beaucoup moins gras, donc là, à 27% de matière grasse et 46% d'humidité. J'ai trouvé ça très intéressant, cette espèce de mariage-là. De fromage de lait de brebis et de lait de vache Jersey. On était vraiment dans quelque chose là, auquel je n'étais pas habitué. Très intéressant. Un fromage très doux, très crémeux, pas du tout salé. Ça a vraiment donné un côté beaucoup, vraiment plus doux là, dans l'exécution. Je ne sais pas s'ils ont besoin de mettre moins de sel pour la coagulation là, du lait pour faire le fromage. Malgré que c'était pas un fromage là, très, très gros, là, il y avait quand même ce goût très crémeux-là là, dans ce fromage plus ferme. C'était vraiment un fromage qui était extrêmement doux. Mais c'était pas un fromage là, qui a un goût qui punch. Donc, ça fait que c'est un fromage qui va avoir des mariages là, ou des accords là, avec, entre autres, des vins fruités généreux. Donc, des vins un peu plus mi-corsés avec des couleurs plus intenses, un nez riche avec des arômes de fruits, de tanins présents, mais quand même subtils. Sinon, ça peut être aussi bien là, avec un vin fruité et vif. Des vins secs qui possèdent là, des arômes de fruits et de fleurs, tout en offrant une certaine richesse en bouche avec une acidité qui procure là, une belle vivacité. Ça se mariait vraiment bien avec, comme des, je vous dis, des vins blancs un peu plus secs là, pour aller contrer cette délicatesse-là. Il a gagné des prix quand même pas mal, ce fromage-là. Là. En 2000, on va commencer par le début, tiens. En 2011, au Bal des Moissons du Centre du Québec, ils ont gagné le prix Moisson d'or. En 2011 encore, pour le Bal des Moissons au Centre du Québec, ils ont gagné le prix Innovation. En 2013, ils ont gagné au American Cheese Award le fromage fait d'une combinaison de lait, le troisième prix. Ils ont gagné en 2016 à l'American Cheese Award fromage fait d'une combinaison de lait, encore une fois, le troisième prix. Et en 2018, de American Cheese Society, ils ont gagné dans sa catégorie la première position. Donc, c'est un fromage quand même assez primé. J'en avais déjà entendu parler, là, mais j'en avais pas vraiment mangé. Donc, un petit peu moins peut-être, là, un petit peu moins surprenant là, que le fromage que je vous ai parlé avant, là, le Marquis de Témiscouata. Mais quelque chose de très simple, très noble, très délicat, là, qui va pas être dans le fla-fla, puis il va pas aller chercher des notes très... Il est moins cochon comme fromage, c'est ce que je veux dire. Mais ça en fait pas moins là, un fromage qui a une belle délicatesse, des belles subtilités. Comme je vous dis, le petit goût de foin qui est beaucoup moins salé là, qu'un beaucoup d'autres fromages a amené des choses extrêmement intéressantes. Donc, pour le Saint-Hélène, fait là, en combinaison avec la moutonnière, on y va avec une note de 3,75 sur 5. Pour le troisième fromage, je me suis fait jouer un tour. Ben oui, j'étais sûr que la station des bières et fromageries n'avait que des produits québécois. Il y avait un fromage qui était complètement décadent, là, qui m'avait coûté beaucoup plus cher, là, mais qui vraiment là, nous avait jeté à terre. C'est un fromage vieilli 36 mois, qui était bien, bien, bien nourri comme saveur. Je fais mes recherches pour vous en parler et je me rends compte que c'est un fromage néerlandais. Il y a fuck all Québec là-dedans. C'est un fromage qui vient des Pays-Bas. Donc, j'ai dû fouiller dans mes notes pour trouver là, un produit que je pouvais vous parler là, qui était québécois pour compléter le bloc aujourd'hui. Et j'ai trouvé un gin. Je vous ai fait un épisode où je vous ai parlé de gin là, il y a quelques épisodes passés. Et il y en a un dont je ne vous avais pas parlé. Là, donc, je l'ai sorti de ma manche et je l'ai appelé en relève là, pour venir m'aider à finir ce bloc-là. Donc, le gin, c'est... Le gin 5 plumes. Le gin 5 plumes là, est en vente à la SAQ pour une bouteille de 750 ml à $48.75 à 40% d'alcool. C'est fait par la distillerie La Chaufferie de Granby. Ce qu'eux ont à dire là, sur ce gin-là, c'est un gin élaboré du grain à la bouteille avec les aromates traditionnels ponctués par une touche de lavande et d'abricot. Savoureux projet imaginé et réalisé par l'organisme Épilepsie Montérégie pour vous sensibiliser d'une douce façon à la cause. On s'invite chez vous et osons faire partie de vos échanges, de vos discussions avec vos amis, vos collègues, votre famille et surtout chatouiller votre curiosité pour l'univers de l'épilepsie. Notre but, que nous parlons ouvertement de l'épilepsie à votre bonne santé. Pourquoi les 5 plumes, qui est le nom du gin qui a été décidé là, par l'organisme Épilepsie Montérégie? Eh bien, un, c'est la communication, deux, la liberté, trois, l'unicité, quatre, le réconfort et cinq, la légèreté. Là. Les 5 plumes, c'est bien plus qu'un gin, c'est ce qu'on nous dit. Alors, vraiment, là, un très beau produit là, avec une belle conscience sociale. Beaucoup aimé ce produit-là. Je vous avais parlé qu'il y avait un gin que j'avais pas... En fait, pas que j'avais pas apprécié, non, mais que j'avais pas pu marier avec mon fameux tonic 1642. C'était la première fois que ça m'arrivait. Mais le gin suivant que j'ai acheté, c'était celui-là, là, le gin 5 plumes. Et ça a été la même chose. Il y avait absolument rien qui était bonifié lorsque je mettais là, avec le tonic 1642. Donc, c'était vraiment là, un gin à boire sur glace ou avec tout simplement là, un autre allongeur. Là. Fait que c'était soit là, le yuzu ou encore le tonic au concombre. Un très beau gin, des belles épices, un peu plus rough. Il y avait beaucoup de fruits dedans aussi. C'était vraiment un gin qui était très intéressant. Différent. Je m'attendais, comme je vous dis, le fait qu'il n'est juste pas... C'est un gin qui est très légèrement aromatisé à l'abricot. On le décèle à peu près pas, mais ça vient tout juste là, nous chercher dans le palais là, en fin de saveur. Des côtés très subtils, là, entre autres là, de lavande aussi, qui font que ça en fait vraiment un gin différent. Ce n'est pas des saveurs que vous attendez à trouver là, dans ces types de gin-là, mais j'aime beaucoup là, quand il y a des produits, là, je vous ai parlé entre autres là, au dernier épisode là, du gin Gunderman là, de la distillerie Koblot qui sort un peu là, de ce à quoi on est habitué, ils sont un peu dans ce style-là. J'aime beaucoup ça. Donc, avec lavande et abricot, on va chercher des saveurs complètement différentes. C'est un gin pour une très belle cause qui était vraiment très intéressant. Comme je vous dis, simplement tester les allongeurs ou le boire sur glace. Hein. Il n'y a absolument aucune loi qui oblige de mixer votre gin. Essayez-le tout simplement sur glace. Ça va déceler peut-être ces notes différentes-là. Ça va peut-être faire un drink complètement différent. Sinon, là, essayez des allongeurs différents pour trouver le mariage qui vous plaît le plus. Dont on y a été, je pense, avec le gin concombre là, qui a été le plus gagnant, justement pour marier là, cette délicatesse de l'abricot, cette petite saveur là, florale de lavande. Donc, vraiment un produit très intéressant, différent, sain, mais le fun, qui est venu là, en relève parce que je m'étais mélangé dans mes fromages. Alors, pour le gin 5 plumes, j'y vais avec un 3,75 sur 5, un produit très intéressant, différent, qui faisait la job et qui va sûrement être un produit que je vais racheter pour ces petites différences-là et parce que c'est aussi un produit pour une très belle cause. Et c'est ce qui complète le troisième bloc pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast Aliment Passion. Abonnez-vous là, sur vos plateformes favorites là, et mettez un commentaire, un 5 étoiles. Toujours bon là, pour faire connaître le podcast au niveau des algorithmes et que de plus en plus de gens écoutent le podcast Aliment Passion. On est présent là, sur les plateformes les plus populaires, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Sinon, n'importe quel podcatcher Android, que ce soit Podchaser, Podcaster, iHeartRadio, Balado Québec, on est partout. Si jamais on n'est pas sur votre plateforme de podcast favori, envoyez-moi un message. Je vais m'assurer que votre podcast favori soit sur votre plateforme favorite. Manquez pas la prochaine épisode 72. C'est les Foodie News. Il y a plein de festivals, plein de belles choses qui vont arriver pour l'été. Vous voulez avoir vos informations, c'est Aliments Passion qu'il faut écouter. D'ici là, ici Roger, ton crazy chef. N'oublie pas, il faut arrêter de faire des recettes. Il faut cuisiner. Bye bye. Thank you.